C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
Talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur O2 Radio en ce mardi 14 avril 2026. Il est 14h pile, oui encore, comme hier et comme demain sans doute. Allez, un petit conseil. Regardez encore et toujours des films, des anciens comme des tout neufs, des films populaires comme des films intello, des comédies comme des drames. En tout cas, nous, à Cinéscent, nous aimons toutes les formes de cinéma et nous sommes là pour partager avec vous notre passion. Pour cela, j'ai avec moi en studio deux cinémathèques vivantes. Bonjour Patrick et bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Anne-Lise.
Vous allez bien ?
Bonjour Patrick. Oui, oui, très bien. Oui, comme des cinémathèques vivantes, c'est-à-dire
c'est
très ancienne aussi.
Très ancienne cinémathèque,
oui,
pareil.
C'était là-dessus, oui.
Alors Patrick, aujourd'hui pour notre épisode numéro 23, dans quel univers allons-nous nous transporter ?
Eh bien, nous allons dans le Grand Ouest, au pays des bisons sauvages, des loups, des apaches et de Rintintin. S'il existe bien un genre qui sent la poussière, le cuir, la poudre, c'est bien le western. Pendant des décennies, il a été plus qu'un divertissement, une véritable machine à fabriquer le roman national américain. L'Ouest américain, celui des cow-boys, des duels au soleil, n'a existé que quelques décennies, mais le cinéma, lui, en a fait une épopée. Un récit simple et presque mythologique, des pionniers courageux, des territoires sauvages et la naissance d'une nation. Le western classique prend vraiment forme avec John Ford. Il fixe les codes, les grands espaces, la communauté menacée, le héros solitaire. Son film, La Chevauchée Fantastique, révèle John Wayne et impose une figure centrale, le cowboy. Incarnation parfaite de l'individualisme américain. Mais j'ai déjà fait celle-là. Mais derrière l'aventure, il y a une lecture politique et sociale. Oui, le western raconte comment une société tente de se donner des origines héroïques. Dans La prisonnière du désert, par exemple, toujours de John Ford, la conquête de l'Ouest devient une quête presque obsessionnelle. Protéger sa famille, défendre la civilisation, repousser ce qui est perdu comme sauvage, entre
perçu,
guillemets,
bien, sûr.
Bien sûr. Perçu, oui.
Oui, oui, bien sûr.
Je n'ai pas dit perçu.
Non, non.
J'ai dit quoi ?
Perdu.
Mais enfin, non, j'ai dit perçu.
Non, non, perçu. Mais
j'ai dit perçu, oui, mais c'est...
Non, non, oui, allez-y, continuez.
Je continue, je ne m'inquiète plus de rien maintenant.
Oui.
Donc, perçu comme sauvage, le western participe ainsi à la construction d'une vision idéalisée et très partielle de l'histoire américaine. En 92, Clint Eastwood signe Impitoyable. C'est un western crépusculaire qui démonte la légende. Bah oui, les cow-boys vieillissent, la violence laisse des cicatrices et la gloire n'existe que dans les récits qu'on invente. Et c'est peut-être là le vrai rôle du western. Non pas raconter l'Ouest tel qu'il était, mais montrer comment une nation se raconte son passé. D'abord comme une épopée, puis comme un doute. Allez, tout le monde à cheval, et pour le 23e épisode de Cinéscent.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ouais. Ceux qui ont un pistolet chargé.
Et ceux qui creusent.
Et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Alors, en 1899, un pistolero vieillissant, Jack Beauregard, songe à rengainer ses colts et à quitter l'Ouest pour l'Europe, où il compte achever paisiblement sa vie. Oui, mais c'est à ce moment-là que déborde un jeune aventurier énigmatique. Il se fait appeler personne et voue à Jack une admiration sans borne. Il rêve de le voir accomplir un dernier exploit, affronter la horde sauvage. 150 heures la loi qu'ils se sont déjà rendus coupables de l'assassinat du frère de Jack. Ces derniers tentent de prendre les devants et, moyennant finances, ils proposent à personne d'abattre Jack. Oui, alors voilà le sujet de Mon nom est personne, un western réalisé par Tonino Valeri, sorti en 1973. Bande-annonce.
Qu'est-ce qui t'arrive, jeune homme ? Tu as besoin d'un auditoire ? Tu dis que tu t'appelles personne. Je suis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom sur une de ces croix. Et qu'est-ce que c'est, d'après toi ?
Pour moi, c'est une bombe.
Tire ! Pousse-tu !
entendu ?
Faire tourner les boules, c'est pas facile. On se retrouve, toi et moi, face à face. Eh non. Tu te retrouves tout seul contre 150.
Tu peux être sûr qu'il aura 150 types accrochés à ses fesses. Ce garçon va rentrer dans un merveilleux.
C'est dans la légende qu'il va rentrer.
Si aujourd'hui les super-héros dominent dans les années 60-70, c'était le western spaghetti, un dérivé du western américain classique revu et réadapté par des réalisateurs italiens comme Sergio Leone et Sergio Corbucci, pour ne citer qu'eux. Devant leur caméra, le héros devient plus immoraux, la loi du plus fort prévaut et l'Amérique du Nord se transforme en terre de brutalité. Le temps des westerns avec John Wayne en cavalier blanc et révolu, place à des kobolds crasseux, mal rasés, en quête d'argent et meurtriers.
Et pourtant, malgré l'explosion que connut le western spaghetti, il finit par s'essouffler. C'est dans ce contexte, au crépuscule de ce cinéma, qu'est sorti Bon Nom et Personne. Bien qu'il ne soit pas le dernier film sur cette époque, il raconte la fin dans le rire et dans l'épique.
Alors, crédité uniquement comme scénariste, c'est pourtant Sergio Leone qui a initié le projet. Oui, la réalisation incombant à son ancien assistant, Tonino Valeri. Avec ce film, Leone, il voulait agir en réaction au succès, vous savez, les Trinita, les fameux Trinita.
Oui, tout à fait, on l'appelle Trinita, on continue de l'appeler Trinita, voilà. Trinita sur Mars.
Voilà, il a également agi comme producteur et dirigé plusieurs scènes du film, dont la séquence d'ouverture ou l'affrontement entre Jack Beauregard et la Horde Sauvage. Oui, ses relations avec Valérie se sont, semble-t-il, rapidement détériorées en cours de route, et la campagne de promotion du film n'arrangea rien, puisque c'est le nom de Leone qui fut mis en avant.
Le film réunit le populaire interprète de Trinita, Terence Hill, avec un monument du western, Henry Fonda.
Un Italien, hein, Terence Hill, contrairement à ce que...
Oui.
La dégaine du personnage de Terence Hill fait explicitement référence au personnage de Trinita. L'acteur a d'ailleurs été choisi en grande partie parce qu'il incarnait ce héros du western spaghetti parodique, contrastant avec la figure d'Henry Fonda, représentant du western traditionnel.
Truffé de références, mais s'affranchissant de la parodie, Mon nom est personne, My Name is Nobody, quand même, en version originale, s'avère un vibrant hommage au mythe de l'Ouest et aux légendes du cinéma. Mm-hmm. Pour les férus d'histoire, inutile de rappeler que le nom de personne est une référence à l'épisode du Cyclope dans l'Odyssée d'Homère. Jules Verne l'a ensuite utilisé avec le capitaine Nemo, qui, en latin, signifie personne.
Eh ben oui, très bien.
Et la boucle est bouclée.
Hein. Oui, tout à fait. Alors, la bande-son a été composé par qui ? Par
Ennio
Morricone, bien sûr, l'homme derrière les thèmes les plus fredonnés du western spaghetti. Alors, revenons au western classique, oui. N'est-ce pas ? Eldorado
oui.
est sorti le 17 décembre 1967 au Japon.
Ah, d'accord.
Ah ben oui. Mais pourtant, il s'agit bien d'un film américain, hein, réalisé par Howard Hawks, un cinéaste tellement doué qu'il réussit à refaire pratiquement le même film que son Rio Bravo initial, tout en se renouvelant. Hein. Alors soyons clairs, sans être un remake rigoureux de Rio Bravo, disons que ce western, Eldorado, comme d'ailleurs Rio Lobo qui suivra 3 ans plus tard, s'inspire volontairement du chef-d'œuvre tourné par Hawks en 59, rappelez-vous, avec John Wayne et Dean Martin.
Ah oh, oui, ça si je me souviens.
Ben oui, vous étiez né, non ?
Ah, j'étais juste né, oui, j'avais 2-3 mois.
Juste né, oui.
Alors une nouvelle fois, Hawks décrit l'amitié virile entre deux hommes face au danger. La relation entre deux générations aussi, James Cant dans le rôle, même rôle que Ricky Nelson dans Rio Bravo,
ouais.
à la différence que Ricky était un sacré pistolero alors que James Cant, lui, ne sait pas tenir un revolver. De même qu'Arthur Hillicutt tient un emploi de vieux renard attachant, semblable à celui de Walter Brennan, vous souvenez,
oui.
le vieux qui râlait tout le temps dans la prison.
Oui, oui, oui.
Mais les similitudes s'arrêtent là. On peut toujours refaire le même film, quelques touches subtiles en font une œuvre à chaque fois différente. Le remake est un genre plus que casse-gueule et rarement réussi. Oui, mais là, eh ben, c'est bien plus que ça.
Ah bon ?
Oui, alors les pauvres fous qui espéraient voir un film de la qualité de Rio Bravo ne peuvent qu'être un peu déçus. Mais peut-on dépasser l'indépassable ?
Est-ce raté pour autant ? Oh, que non, loin de là. Hein. On replonge tête baissée dans cet univers hawksien.
Hawksien, oui.
Où les hommes ont le sens des valeurs et de l'honneur. Oui, c'est souvent manichéen, mais c'est beau. Où l'amitié et la justice triompheront de tout, car oui, on le sait bien que les gentils l'emportent à la fin. Où les femmes sont fortes et savent donner l'impression à ces cow-boys crasseux que ce sont eux qui ont le pouvoir, alors qu'en fait, c'est le sexe soi-disant faible qui tire les ficelles.
Alors, extrait du film.
Oui.
On va écouter la première rencontre entre le mercenaire Cole Thorston, qui est joué par John Wayne, et le riche propriétaire terrien Bart Jason, joué par Edward Asner.
Monsieur Jason, voilà un visiteur.
Cole Thornton ? C'est moi. Je suis Bart Jason. Enfin, vous voilà. Descendez de cheval et entrez, nous allons bavarder. Non, non, c'est pas utile, je n'ai rien à vous dire. J'ai décidé de renoncer à travailler pour vous. Avant de savoir ce que je demandais... Non, il y a sûrement autre chose. Je suppose que quelqu'un vous a parlé.
C'est exact. Le shérif. Son histoire est assez différente de la vôtre.
Oh, peut-être. Ne voyons-nous pas la situation de la même façon. Les hommes de main jouent les délicats aujourd'hui. Vous êtes payé
pour... Je suis payé pour risquer ma tête. Je déciderai quand, comment et où je prendrai ce risque, et ce sera ailleurs qu'ici.
Entre nous, Santon... Je crois surtout que vous ne tenez pas à vous mesurer au shérif Jimmy Hara.
Entre nous, je crois que vous avez raison.
Vous croyez qu'il est très à craindre ?
Oui, ce n'est pas un dégonflé. Et monsieur Jason, vous n'êtes pas armé, on dirait. Vous engagez donc toujours des gardes du corps. Alors je vous donnerai un petit conseil gratuit. Si vous comptez sur la bande que je vois là, ne vous brouillez pas avec Hara. Vos grands l'air trop tard pour donner du fil à retordre à un type comme lui.
Alors, Thornton, si c'est vraiment ce que vous pensez, je ne veux pas de vous.
Hé, toi, le rigolo, je te conseille de laisser ce fusil où il est. Demande d'abord l'avis de ton patron avant de me tirer dessus, car il sera mort avant que je sois par terre.
Thornton, je n'oublierai pas ce que vous venez de dire.
Ça vous servira.
Ah oui, c'est une scène introductive tout à fait intéressante.
Passionnante.
Et nous avons dans Eldorado la trame classique, hein, un justicier solitaire face à une meute de tueurs assoiffés. Ça, c'est une constante dans le western, le solitaire face à la foule adverse. Et en général, il s'en tire. Moi, je connais pas de western où le héros meurt sous la mitraille, exception faite de Alamo de John Wayne, justement. Il faut ce côté dramaturgique pour que le spectateur tremble à l'idée que le héros puisse périr. Mais il faut une bonne dose de savoir-faire pour que le scénario tire les ficelles sans les rompre. John Wayne a l'air bien usé dans son rôle de justicier solitaire. Il traîne sa carcasse devenue lourde avec un certain cynisme. Robert Mitchum, lui, s'en tire avec les honneurs du jury. Son personnage, tout en humour et avec de grosses doses de bourbon, nous séduit. Il est drôle et émouvant par instant. Bref, on peut se demander si Eldorado n'est pas un hommage à Rio Bravo plutôt que d'en être une pâle copie. Alors à vous de choisir, hein, ben moi c'est fait.
La chanson du générique d'ouverture est l'œuvre de Nelson Riddler et de John Gabriel.
Oui.
Elle est interprétée dans la version francophone par Eric Montry.
Soir jusqu'au matin et de l'aube au couchant, par-delà les montagnes et les fleuves d'argent, un homme s'en va vers un monde nouveau. Il s'en va chercher l'Eldorado. Oui, va, car ton cœur n'aura jamais de repos. Va, il existe quelque part l'Eldorado. Déjà, le vent se lève, le ciel devient plus lourd, et chaque pas te pèse, mais tu marches toujours. Sans te retourner, tu trouveras bientôt ce que tu cherchais, l'Eldorado. Oui, right, car ton cœur n'aura jamais de repos. Right, il existe right, quelque part l'Eldorado. Au cœur de tous les hommes se trouve une lumière. C'est l'espoir et l'amour qui font tourner la terre. Si tu cherches toujours sans te rêve ni repos, oui, tu le trouveras, l'Eldorado. Oui, va, car ton cœur n'aura jamais de repos. Va, il existe quelque part l'Eldorado.
Bon, on va dire que ça a légèrement vieilli bon, dans le style.
Juste un peu.
On dirait
ça enlève la poussière, ça va.
Alors, hein. S'entend bien parce que nous allons parler maintenant de néo-western. Vous savez, c'est un genre cinématographique qui est apparu dans les années 60. Alors, il reprend les codes, les thèmes, les structures ou les caractéristiques des westerns. Trois enterrements est un néo-western, donc réalisé par Tommy Lee Jones. Il a été présenté en compétition au Festival de Cannes de 2005. Il est reparti avec le prix du scénario pour le Mexicain Guillermo Arriaga et le prix d'interprétation masculine pour Tommy Lee Jones lui-même.
Alors qu'ils discutent au bord d'un lac texan, Melquides Estrada, paysan mexicain et immigré clandestin, confie à son ami Pete Perkins, le contremaître d'un ranch, qu'il voudrait être enterré dans son village, un petit hameau au-delà de la frontière au Mexique. Il lui montre la photo de sa femme et de ses enfants qui posent devant leur maison. Mais Pete éclate de rire. Son ami ne va pas mourir.
Et pourtant, le corps de Melquiades s'est retrouvé en plein désert. Il a été assassiné. Mais par qui? Son ami Pete va mener lui-même l'enquête que les autorités locales refusent d'assumer, cherchant à ne pas créer de scandale sur la police des frontières, aux méthodes plutôt musclées, dirons-nous. Seul garant dans cette région, étrange région du Texas, d'une réelle humanité, Pete va découvrir le meurtrier, Mike Norton. Pauvre petit garde-frontière peureux, violent, raciste, mais un vrai beauf.
Commence alors la mission de Pete pour ramener Melquiades dans son pays. Il fait déterrer le corps par le jeune garde-frontière et l'embarque avec lui pour offrir à son ami le plus beau voyage de sa vie vers une sépulture honorable dans son Eldorado natal, le Mexique. Il va aussi offrir à son assassin une magnifique leçon de vie, des hommes, le sens des valeurs, le respect de la vie. Bande-annonce.
Des hommes comme nous vivent de leurs armes parce qu'ils savent les manier.
Non, pas
moi. C'est trouvé quand?
Ah voilà. La victime est morte. Qu'est-ce que vous faites? Laissez le bourbon, c'est Mitchum qui buvait du bourbon.
Allez, on y va.
Bon.
Vous l'avez trouvé quand?
La victime est morte d'une blessure par balle. La mort remonte à, je dirais, 7 jours.
Je cherche du travail.
Quel genre de travail?
Je suis vaché, rien de plus.
Vous êtes d'où, au fait?
Cincinnati.
Et quel travail vous amène au Texas?
La police des frontières. Oh.
Reste couché.
Voilà ce que ton ami avait sur lui. Tu les connais?
La plus grande, c'est Elisabeth. Et elle, là, c'est Velia, ma femme.
Faudrait peut-être enquêter sur les gardes-frontières, ils servent tous du 223.
Mais pour qui tu te prends? Tu sais très bien qui a tué Mel.
Gomez lui a dit qui a tué le Mexicain. Le gars s'appelle Mike Norton.
Tu cries encore une fois, je te tue.
Quoi, qu'est-ce que t'as fait?
Si jamais je meurs ici, tu me ramèneras à ma famille et tu m'enterreras dans mon village.
Si tu essaies encore d'enfuir, je te tue.
Je te dis que non! Ce putain de Jiménez n'existe pas!
Jiménez est un très bel endroit, Pedro.
Tu vois pas, y a pas de Jiménez! Au secours!
En réalisant ce film, Tolini Jones voulait principalement faire une étude sur les décalages sociaux, pas plus que ça, qui existent, ces décalages entre les terres du sud, du Rio Grande et celles du nord. Il déclarait d'ailleurs...
Je voulais savoir quelle injustice, quelle gloire, quelle beauté et quel genre de rédemption on peut trouver dans cette région, dont le caractère et la qualité ont mûri et évolué, et que personne ne peut contrôler.
Voilà.
Alors les thèmes principaux et de nombreux éléments dramatiques du film ont été inspirés à Tolini Jones... par le roman de William Faulkner, Tandis que j'agonise. Autre source d'inspiration...
C'est pas vous qui agonisez.
Non, je suis pas loin de le faire, mais bon, on va attendre
vous
un
faites
peu.
Peur.
On va attendre au moins la fin de l'émission.
Oui, alors c'est le roman de William Faulkner.
Ça s'appelle Tandis que j'agonise.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ce qui est écrit, c'est vous qui avez écrit la chronique, donc vous devriez le savoir.
Oui, d'accord.
Autre source d'inspiration, l'histoire réelle d'un étudiant américain, Ezequiel Hernandez Jr., tué en 97 par un militaire américain dans des conditions très similaires sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Alors, à signaler que Trois enterrements, le film est un film franco-américain,
oui.
Car l'un des producteurs n'est autre que Luc Besson.
Non.
À sa sortie, le film fait l'objet d'un avertissement relatif au contenu. Je vous livre ce qui était indiqué. Le film contient des scènes violentes, du tabagisme, du langage grossier. Les lumières clignotantes et stroboscopiques peuvent affecter les spectateurs photosensibles.
Bah oui.
Rien que ça. Le compositeur américain d'origine italienne Marco Beltrami a signé la bande originale.
Une fois, j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Oui, je ne sais pas. On a revu plein de films récemment qu'on avait déjà vus. Mais on les voit où, ces films-là? Eh bien, à la télévision, figurez-vous.
De quoi oui. Je me mêle, Patrick?
Bah, parce que c'est marqué que c'est Alice qui devait le dire.
Mais allez-y, je vous en
non,
prie.
Non, non,
non, mais faites-le.
Je retire tout ce que j'ai dit.
Très bien. C'est parfait. Non, pour, mais vous étiez lancé, continuez. Oui, c'est
bienvenue
ça.
Bienvenue au club. Private joke, là. On revient. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Anne-Lise, que Patrick nous a dit?
La même chose que Patrick disait, c'est-à-dire qu'on va vous parler des films que l'on voit à la télé cette semaine.
Bon, mais moi, j'ai décidé de ne pas regarder la télé cette semaine, donc je vous laisse libre cours à vos imaginations et vos sélections du jour.
Mais pourquoi, Jean-Jacques?
Ça ne vous regarde pas. Donc...
Si, parce que vous n'avez pas eu le temps de regarder les films, c'est pour ça.
Mais non, mais ils sont à venir dans la semaine qui vient.
Bah, justement, vous n'avez pas le temps de regarder. Alors moi, Anne-Lise, vous avez quelque chose?
Oui, mais vous, et vous, allez-y, je vous en prie.
Allez-y,
choisissez-en.
Je peux? Alors, je vais en choisir deux.
Mais oui, prenez-en un pour moi, tiens.
Voilà. Je vais en prendre un pour vous. Allez. Alors, pour vous, je vais choisir Le Cercle Rouge.
Ah ben d'accord, oui.
Ça passe ce soir d'ailleurs sur Paris Première.
Mais ça c'est à revoir.
C'est à revoir. C'est un grand film de Belleville avec Alain Delon, Yves Montand, Bourville, Gianmaria Volonté, François Perrier. C'est un film vraiment un polar dans la pure tradition des polars, avec un Bourville qui est d'autant plus émouvant que c'était son dernier film parce qu'il était extrêmement malade au moment de le tourner. C'est vraiment, il était quasiment décédé quelques semaines après. Oui. Le commissaire Mattei, donc Bourville, de la brigade criminelle, est chargé de convoyer par le train Vogel. C'est pas un gros mot, hein. Vogel, ça veut dire oiseau en allemand.
Ah, pardon.
Un détenu. Mais celui-ci s'enfuit en pleine nuit et demeure introuvable, malgré un dispositif important. Pendant ce temps, à Marseille, un gardien de prison propose une affaire à Corey au moment de sa libération. Après s'être rendu chez Rico, Corey gagne Paris en voiture. Il recueille par hasard Vogel qui, dans la forêt de Fontainebleau, lui sauve la vie en abattant deux hommes de la bande de Rico lancés à sa poursuite. Mattei, chargé de retrouver Vogel, cherche à faire parler un de ses indicateurs, Santi, le patron d'une boîte de nuit qui est joué par François Perrier. C'est vraiment un casting incroyable, 4 étoiles, vraiment, même 5 étoiles, allez, on va à 5 étoiles.
Pour rester poli, il vaut mieux dire Vogel que Vogel.
Et du coup, c'est sur quelle chaîne?
Alors,
répétez-le.
Alors, c'est sur Paris Première à 21h. Et c'est ce soir.
Et ben voilà, très bien.
Ok, ben j'ai noté.
Très, très bon choix, Jean-Jacques.
Bon choix.
Merci.
Moi, j'en ai un. Alors, c'est moins un bon choix, mais que j'assume aussi. C'est À Armes Égales de Ridley Scott qui passe dimanche 19 à 21h sur TF1.
Ah bon?
D'accord.
Tout à fait.
Il passe des films.
Armes égales, c'est avec qui ça?
C'est de Ridley Scott avec Demi Moore, Viggo Mortensen, entre autres.
D'accord.
Et l'histoire, le petit pitch, c'est que la réputation de sexisme dans l'armée américaine n'est plus à faire. Le lieutenant Jordan O'Neill est choisi pour être la première femme militaire à faire partie de cette unité, d'une unité antiterroriste. Mais avant de gagner sa légitimité, elle devra subir l'humiliation de ses collègues masculins.
Bien sûr.
L'entraînement aussi bien physique que mental, un vrai parcours du combattant. Et Demi Moore, que des fois moi j'aime moyen, est plutôt assez convaincante dans ce film-là, qui remet un peu à plat l'égalité entre les hommes et les femmes.
Demi Moore ne sera jamais aussi belle que dans Ghost, de toute façon.
Ah oui, ça c'est sûr.
Vous en avez un deuxième?
J'en ai un deuxième,
pour moi. On va rester dans le thème des westerns. Film de William Wyler.
Oui, bien sûr.
En 1958, avec Charlton Heston, Gregory Peck, John Simmons et Carol Baker. Ça s'appelle Les Grands Espaces, figurez-vous.
Très bien.
Et ça passe dimanche aussi, à 21h, mais sur Arte,
bien sûr.
Jeune retraité de la marine, James McKay s'installe dans l'Ouest américain pour y vivre auprès de sa fiancée Patricia Terrell, fille d'un riche propriétaire terrien. Mais il se heurte à l'hostilité du contremaître du ranch, Steve Leach, amoureux de la jeune femme, et se trouve impliqué dans un conflit opposant les Terrell à leurs voisins, les Hennessey. Les deux clans convoitent en effet le même lopin de terre appartenant à Julie Morrigan. Happé malgré lui dans une pitoyable guerre de voisinage, James McKay se dresse contre la violence archaïque qui sévit dans l'Ouest américain.
Il a raison.
Il a bien raison. Voilà, on est dans le thème classique du western.
Très bien.
Tout à fait.
Je ne sais pas si je regarderai les deux que vous avez proposé.
Mais... Bon, le premier, déjà, est pas mal.
Le Cercle Rouge, c'est un très grand film.
Moi, c'est
bon pour moi.
Écoutez, parfait. On va retourner à nos westerns avec Appaloosa, qui est un western américain réalisé par Ed Harris, sorti en 2008. Il est adapté du roman du même nom de l'auteur du roman policier Robert B. Parker. Appaloosa est la deuxième réalisation de l'acteur Ed Harris.
Alors, au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l'Ouest, la petite ville minière d'Apalosa vit sous la domination du tout-puissant Rangal Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité à éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de la terreur, la communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint Everett Hitch, réputés pour avoir ramené la paix et la justice dans des villes où plus aucune de loi n'avait cours. Et pourtant, cette fois, Cole et Hitch vont se heurter à un adversaire d'une autre dimension. Leurs méthodes implacables risquent de ne pas suffire. L'apparition d'Alison French, une séduisante veuve, va mettre leur duo à l'épreuve. Apalosa va devenir rapidement le théâtre d'une de ces histoires où la vie, la vérité, la trahison et la mort se côtoient avant de se combattre. Voici donc une saga comme seule la légende de l'Ouest sait les écrire. Bande-annonce.
Les hommes comme nous vivent de leur arme parce qu'ils savent les manier. Parce qu'on est meilleur que la plupart.
Tu es aussi bon que Virgil au revolver?
J'ai jamais vu personne d'aussi bon que Virgil.
Le genre de travail qu'on fait est tout ce qu'il y a de plus incertain.
Depuis combien de temps gagnez-vous votre vie en tuant des gens?
Je ne tue pas les gens, je fais respecter la loi.
Apalosa est sur le point de devenir une ville fantôme.
Vous êtes en état d'arrestation.
Personne n'a rien vu. Il ne s'est rien passé.
Monsieur Cole, Monsieur Hitch, nous voulons que la paix revienne dans notre ville.
C'est dans nos cordes.
Ça, c'est sûr, oui.
Je peux finir mon café avant?
Bien sûr que tu peux.
Je suis le nouveau shérif de la ville.
Vous êtes un homme mort.
Ce secteur ne relève pas de votre jurisprudence.
Jurisprudence?
Je pense qu'il veut dire juridiction.
C'est ça qu'il veut dire. Je pense qu'il a sacrément raison.
On vous tuera, vous et Hitch.
Vous essaierez.
Vous avez abattu 3 de mes hommes.
À vrai dire, j'en ai descendu que 2.
C'est Monsieur Hitch qui a descendu le 3e. Si jamais quelque chose m'arrivait, je te serais reconnaissant de t'occuper d'Ali.
Pourquoi tu t'attends à quelque chose?
Aucun de vous deux n'a peur.
Tout sentiment peut vous faire tuer.
On dirait que tu viens de commettre ta première erreur.
Vous avez peur de mourir?
J'ai pas peur.
Parfait, parce que tu y passes en premier.
Oh là là.
Oui, c'est prometteur. Alors, avec ce film, on a affaire à une belle histoire d'amitié entre deux hommes. C'est le maréchal Virgil Cole, interprété par Ed Harris, et son adjoint Everett Hitch, qui est joué par Viggo
Mortensen.
Vous allez répéter tous les noms que je donne.
Je crois que c'est un peu ce qu'il veut. Il a envie de parler aujourd'hui,
bon,
Patrick.
Alors, c'est une amitié étrange, mélange de virilité et de prévenance entre ces deux cow-boys pas tout jeunes.
Plutôt jeunes, c'est vrai.
Et la femme, me direz-vous. Le personnage joué de façon crédible par Renée Zellweger n'est ni la bourgeoise habituelle, ni la fille de joie pittoresque, mais un peu des deux, qu'on va dire.
Harry signe une œuvre classique doublée d'un questionnement original et teinté de modernité sur l'opportunisme et la solitude. Oui. À l'action proprement dite, se greffe une peinture de l'âme humaine à laquelle le réalisateur accorde de l'importance.
La dualité du récit, associant à une intrigue typique du western, une réflexion sur les faiblesses de la nature humaine, occasionne parfois quelques longueurs, oui.
Oui,
l'intrigue
oui,
des plus basiques et assez convenue ne justifiait sans doute pas les 2 heures de projection. La mise en scène d'une grande élégance démontre que l'auteur s'est filmé avec style, un scénario certes classique, mais non dépourvu d'ambiance. Rien ne manque, rien. Les coltes, les chevaux, les indiens, les shérifs, les bordels, les saloons, l'appât du gain, rien ne manque.
Oui, mais je vais vous dire ce qui fait la force de
dites-nous,
ce western. C'est surtout les 2 personnages principaux.
Bah oui.
Et leur interaction complice et respectueuse. Leur osmose parfaite qui se traduit par une amitié, je l'ai dit, virile, qui passe par de simples regards, des tics et des rictus. Ces gars n'ont pas besoin de débiter des phrases, n'est-ce pas? Ils se connaissent à fond et se comprennent du premier coup. Ils subjuguent littéralement l'auditoire qui ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, c'est un bon western qui rend hommage au genre classique, qui ne cherche pas l'esbrouf, qui privilégie la psychologie au détriment de l'action. Et il est doté en plus d'un excellent casting et de splendides images. La musique est signée Jeff Beal.
pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape.
Eh bien, sur 91.3 ou de radio, bien entendu.
Open Range est un western américain sorti le 15 août 2003, réalisé et coproduit par Kevin Costner. Après Danse avec les loups et Potsman, Costner signe ici sa troisième réalisation et son troisième western. Le film relate une guerre de territoire qui éclate lorsque l'éleveur de bétail en liberté Boss Spearman et ses cow-boys pénètrent sur les terres du baron de bétail Denton Baxter dans le Montana.
Les quatre cow-boys, Charlie, Boss, Moose et Button, mènent leur troupeau à travers les vastes plaines de l'Ouest. Les quatre hommes partagent une amitié basée sur un solide code de l'honneur. Ils arrivent en vue d'Harmonville, petite ville tombée sous la coupe de Baxter, propriétaire terrien tyrannique qui s'est assuré le soutien du shérif Poole.
Et alors un jour, qu'il se rend seul en ville, Moose est passé à tabac par les hommes de Baxter. Charlie et Boss viennent le récupérer. Ils se rendent compte que Baxter veut les faire plier devant son autorité. Il se trouve irrémédiablement entraîné vers une confrontation avec les dirigeants de la petite ville pour protéger la liberté et les valeurs rattachées à leur style de vie d'une autre époque. Blessé et dans la tourmente, Charlie est bouleversé par sa rencontre avec Sue Barrow, une femme superbe et chaleureuse qui séduit à la fois son cœur et son esprit. Lui qui n'a jamais connu autre chose que la guerre et les chevauchées à travers la prairie, est sensible à sa beauté. Bande annonce.
Ce pays est tellement beau qu'on oublie les réalités ici. On risque de perdre de vue tout ce qui est compliqué. Il y a combien de temps qu'on fait la piste, nous deux?
Ça doit faire 10 ans.
Hein? Tu sais ce que ça fait 10 ans? C'est une décennie.
J'ai toujours espéré qu'un homme doux et gentil viendrait un jour.
Je suis pas ce que vous croyez, pas du tout.
Je me présente, Denton Baxter. La veine pâture, on la voit d'un très mauvais œil chez nous.
Peut-être, mais la veine pâture est légale.
Les temps changent, monsieur Spearman.
Les hommes révèlent leurs intentions si on sait les écouter. S'entretuer pour des vaches, tu crois que ça vaut le coup?
Les vaches, c'est une chose. Mais qu'un homme dise à un autre, lui a le droit d'aller dans notre pays, c'est pas pareil. Les hommes de Baxter ont tué notre ami d'une balle dans la tête. Ils les ont tirés sur un enfant de 16 ans. Ils l'ont frappé avec une telle violence qu'on sait pas s'il vivra.
Ça m'a jamais posé de problème de tuer. Jamais. Les hommes vont mourir aujourd'hui. C'est moi qui vais les tuer.
T'aurais dû filer quand on t'en a laissé le temps, Spearman.
Ça vous étonnera peut-être de l'apprendre. Il y a des hontes à côté desquelles mourir n'est rien.
Tout à fait.
Oui, oui, excusez-moi, je voulais simplement dire que Open Range a donc permis à Kevin Costner de célébrer, à nouveau, un genre qu'il affectionne tout particulièrement. Il disait, tiens...
Nous avons tous dans le cœur ces images et ces sentiments venus des grands westerns.
Ouais.
Je crois que la plupart des gens aiment le western d'abord, à cause des valeurs simples et cohérentes qu'il défend.
Ouais.
Ceci dit, on avait trop rapidement catalogué Costner comme un cinéaste contemplatif et statique. Open Range vient contredire ce fait trop vite établi. Les déflagrations s'y enchaînent à toute allure. Dans l'Ouest décrit par Costner, il ne reste rien. L'honneur, l'honnêteté n'ont presque plus cours. Seul reste l'échange qui couvre bien mal les secrets que chacun garde au plus profond de lui.
Car Open Range est un film dont les personnages gardent jusqu'au bout leur part de mystère. Cet aspect fantomatique qui donne à l'œuvre l'apparence crépusculaire de certains westerns de Clint Eastwood, on pense bien sûr à Impitoyable. Oui. Les héros aussi mythiques que désuets, derniers témoins d'un temps révolu, propagent la bonne parole dans un ouest délabré. Open Range s'impose comme l'un des plus beaux westerns depuis l'oscarisé Impitoyable.
Alors, outre Kevin Costner dans le rôle de Charlie,
oui,
la distribution comprend Robert Duvall,
oui,
et Annette Bening. Et au rayon anecdote, puisque vous aimez ça...
Oui, une anecdote, oui, il y a longtemps.
Pour les besoins du tournage, une ville entière a été construite.
Ah, oui. Ah oui, quand même.
Et cela a pris 9 semaines. Précédé d'un gros travail de documentation pour être fidèle à tous les détails et pas raconter n'importe quoi.
Mmh.
C'est Michael Kamen, compositeur du Brésil, vous savez, de Terry Gilliam,
oui,
du Piège de cristal de John McTiernan ou encore de L'arme fatale de Richard Donner. Eh bien, c'est lui, Michael Kamen, qui signe la bande originale du film.
Thank you. Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges? C'est génial ce genre de spectacle, hein?
Ça, c'est vrai, ça.
Et là, c'est à vous de parler, Patrick.
Allez-y, Patrick.
J'allais vous proposer, Alice, de reprendre votre bien.
Non, mais allez-y,
que je vous ai emprunté
allez-y,
tout à l'heure.
Vous faites tellement bien.
Oh, oui, alors je sais que je fais tout très, très bien. Voilà la séquence, les sorties de demain. Parce que figurez-vous que nous sommes mardi et que chez nous, en France, dans notre beau pays, les sorties au cinéma se font le mercredi. Donc, demain.
D'accord.
Donc, c'est les sorties de demain.
Oui, oui, bien sûr.
Au cinéma.
Alors, moi, j'ai décidé de ne pas aller au cinéma.
Oh, demain. Vous avez décidé de ne rien faire, vous.
Cette semaine, voilà. Vous ne faites rien, en fait.
C'est une semaine off.
C'est la grosse flemme, quoi.
Voilà.
Vous avez un film donc, à
vous allez
oui,
me remplacer.
Oui, tout à fait.
Vous en avez combien?
Alors, j'en ai un.
Allez-y.
Alors,
non, mais allez-y, parlez, je veux dire.
Eh bien, c'est
pas
un film japonais de Hyo Ishikabi, Ishibashi.
Ah, c'est pas le même. Non, allez-y.
C'est son cousin.
Non, ça commence mal. Mais donnez-nous
Ishibashi,
le titre.
Ishibashi, d'accord.
Ça s'appelle La fille du Combini. C'est à 24 ans, Nozimi a abandonné son costume de commercial pour l'uniforme d'une supérette. Entre la monotonie rassurante du quotidien et la complicité de ses collègues, elle pense avoir trouvé un équilibre jusqu'à ce qu'une ancienne amie de lycée vienne bouleverser sa routine et confronter ses choix de vie. Ça a l'air d'être un film, une fresque un peu intime et douce amère sur la place du travail quand on est jeune et puis aussi sur ses choix de vie qu'on fait et la relation qu'on peut entretenir avec ses vieilles connaissances. Ça a l'air très joli, en tout cas, et assez très simple, en fait, sur
une petite chronique,
ouais. Une histoire qu'on raconte de cette jeune fille qui a tout plaqué pour simplement être vendeuse dans un combini.
D'accord. D'accord. Et donc, le titre, c'est
La fille du Combini, tout simplement. Combini, c'est une petite supérette.
Et vous pouvez nous rappeler le réalisateur pour voir si c'est le même que tout à l'heure.
Ishibashi.
Hyo Ishibashi.
Très bien. Parfait. Et vous, Patrick?
Alors, moi, figurez-vous que j'ai le choix entre le 1, le 2, le 3.
Vous prenez le 2.
Je vais donc prendre le 3.
Bien sûr.
C'est un film de Rubika Shah avec Ben Mankiewicz et Nick Davis. Alors c'est un documentaire, c'est pas un film de long métrage avec des personnages. Figurez-vous qu'en 1932, Herman G. Mankiewicz, qui deviendra célèbre 10 ans plus tard pour le scénario de Citizen Kane, écrit The Mad Dog of Europe, un script visionnaire dénonçant la menace hitlérienne en 32. Hein.
Chien fou.
Entre pression diplomatique et intérêts économiques, les studios hollywoodiens préfèrent se taire et enterrer le projet. Tiens, tiens. L'histoire de ce film jamais produit semble résonner avec les fractures de plus en plus menaçantes de notre époque. Ils vont devoir lutter contre les éléments, tandis que le désespoir et la folie menacent de les emporter. C'est un film qui me semble extrêmement actuel, qui vaut mieux
la peine de
dire
regarder.
Des choses. Ça vaut le coup d'être vu, je crois. The Mad Dog of Europe, c'est le mauvais chien. Hein, donc,
le chien fou, oui.
Le chien fou.
Il y en a un qui a disparu ce week-end, d'ailleurs, tant mieux.
Oui, il n'a pas disparu.
On ne le citera pas.
Non.
Pas de pub.
C'est Orban et Urbi. Voilà. C'est Urbi et Orban. Donc, The Mad Dog of Europe, c'est donc Rubika Shah. Et c'est un très très chouette film. Sinon, il y a juste une illusion d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano. C'est pas le même registre.
Et bien voilà, c'est fini.
Je savais qu'elle nous aidait. Oui,
enfin, jusqu'à ce que tout recommence,
comme
vous
d'habitude.
Pouvez remettre en marche vos téléviseurs, vos vidéoprojecteurs, téléphones ou autres supports vous permettant de regarder des films. Mais si vous n'êtes pas chez vous, eh bien, je vous propose de nous écouter ou réécouter en podcast sur le site d'Eau de Radio et nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pour le direct, nous nous retrouverons mardi prochain.
Et ce sera bien sûr à 14h sur Eau de Radio 91. Bien entendu.
Allez, on se quitte, Jean-Jacques, avec la perle musicale du jour. Qui est-ce?
Eh bien, on va rendre un honneur à une dame de western, pour rester dans le thème. Elle ne fut ni bourgeoise ni prostituée, mais éclaireur dans l'armée du général Custer. Elle s'appelait Martha Jane Canary, mais on la connaît mieux sous le nom de Calamity Jane. Une femme audacieuse et libre, une personnalité mythique de la conquête de l'Ouest. Elle est décédée en 1903 à l'âge de 53 ans. Eh bien, la voici qui revit un tout petit peu grâce à la voix de Camélia Giordana.
Allez, à mardi prochain et en attendant,
bon vent à tous.
Tant de vallées, de prairies, de rivières et la joie des plaines.
la chance, la déveine. J'ai croisé des cactus, des coyotes, des roulottes à la chaîne et des fantômes à l'appel. J'ai dévalé tout le monde, mes bottes foulées la poussière, les bonheurs et les peines. J'ai bravé sans danger, traversé les terres chères aux Cheyennes. J'en ai déçu, déçu ou même. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. Derrière moi, abandonné mon cœur au désert, soumis mon corps aux tempêtes. J'ai misé sur demain, j'ai flambé mes dollars au poker. J'ai tout brûlé, mes amulettes. J'en ai pisté des canailles, des terreurs la nuit à cheval, sous la chaleur sans éventail. J'ai croisé des pêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme, et un héros sans défaut, sans faille, que j'aime. Et la joie des plaines, la chance, la déveine. Si le ciel